Chapitre 48. Nicolas avait doucement rabaissé le drap, juste sous le ventre de sa compagne. Il lui sembla qu'il avait encore pris du volume depuis sa dernière visite. Il le caressa avec une tendresse toute paternelle, l'oreille collée au niveau du nombril. Le silence de cette chambre, seulement rompu par les bips réguliers, hypnotiques, lui faisait tant de bien. En cette fin de matinée, c'était comme une bulle protectrice au milieu de l'orage. Dehors, on parle beaucoup de toi et de ta maman, tu sais. Quand tu seras plus grand, c'est sûr que tu verras tout ce qui s'est passé avant ta naissance. Tous ces reportages malsains, ces gens qui disent n'importe quoi et donnent leur avis sans te connaître. Il y a beaucoup d'agressivité partout. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Tout ça, c'est pour toi que je le fais, pour que tu vives. J'aimerais tellement que tu vois ce monde. Malgré tout, je te promets qu'il en vaut la peine. Il sortit son téléphone, bascula en mode photo et tenta de faire un plan qui englobait le ventre gonflé, le lit d'hôpital et le bas du visage d'Audra. Pas simple, avec les appareils, les tuyaux, les cathéters qui pendaient. Bien que concentré, il perçut un bruit dans le couloir et planqua son téléphone dans le creux de sa main. C'était simplement une infirmière qui poussait un fauteuil roulant vide. Il revint alors vers le ventre nu, d'une immobilité glaçante, et prit alors conscience de l'horreur de ce qu'il était en train de faire. Bon Dieu, qu'est-ce qui lui prenait? Est-ce qu'il devenait complètement fou? Il rangea son appareil dans sa poche. Non, il ne ferait pas ce cliché. ACFAC pourrait très bien se débrouiller sans. Pourquoi devrait-il offrir sa compagne, même anonyme, en pâture aux réseaux sociaux? Les gens avaient-ils besoin de telles images pour se faire une opinion? Le buzz, ils n'ont que ce mot-là à la bouche, songea-t-il avec amertume. Il remit le drap en place et le lissa du bout des doigts pour en ôter les plis. Pardonne-moi, avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression de débloquer. La gorge à présent nouée, Nicolas se rendit à la fenêtre. L'ordonnance du référé allait être délivrée d'ici une heure ou deux. Quand son téléphone sonnerait, son avocat lui communiquerait la décision de justice. En attendant, chaque minute était un supplice. Il apercevait en contrebas, devant l'entrée du parking, deux petits groupes de personnes avec des pancartes, à bonne distance l'un de l'autre. Une équipe de police avait été sollicitée pour parer d'éventuels débordements. Mais pour le moment, chacun manifestait dans le calme, et ce, malgré les slogans portés à bout de bras qui étaient d'une violence inouïe. Avortement euthanasie AC, stop aux humains supprimés, médecin assassin pour les uns. Femme égale réservoir utérus incubateur, un enfant ne se construit pas dans une tombe, non à la marchandisation du corps de la femme pour les autres. Pas de demi-mesure, rien qu'un gouffre de haine entre des gens qui pourtant vivaient sur la même planète. Nicolas n'arrivait pas encore à évaluer à quel point tout s'était embrasé. Dès la sortie de l'article dans Le Parisien, l'avocat des SPIC contre-attaquait sur CNews. L'identité d'Audra avait été révélée, et avec des photos d'elle, plus jeune, souriante. La famille ne lésinait pas sur les moyens pour susciter l'empathie. Maître Frédéric Josselin évoquait quant à lui le droit fondamental de mourir dans la dignité et le combat des parents pour que celui-ci s'applique. L'extrême droite et le Parti chrétien-démocrate avaient été les premiers à réagir sur Twitter et à enflammer les réseaux sociaux au sujet de ce qui s'appelait désormais le cas Audra Speak. Les formules étaient sans équivoque. L'euthanasie d'une mère et de son bébé nous ramène aux périodes les plus sombres de l'humanité. Que les médecins servent la vie, qu'ils ne la suppriment pas. Le lendemain, néanmoins, les réactions de la majorité, d'autant plus embarrassé que les récents propos du chef de l'État sur la question de l'allongement du délai légal de l'IVG hérissaient les milieux pro-vie, ne s'étaient pas fait attendre. Sans se positionner clairement, arguant qu'il s'agissait avant tout d'une décision médicale avec un jugement en cours qui interdisait tout commentaire, on martelait que c'était encore une fois le pays tout entier qu'une minorité allait prendre en otage et que celle-ci s'apprêtait à instrumentaliser cette histoire absolument dramatique en faveur de ses combats idéologiques. Voilà aujourd'hui à quoi tout cela se résumait. Une affaire. Et lui là-dedans. Qui y pensait? Nicolas était occupé à broyer du noir au moment où le médecin réanimateur entra. Ce dernier referma derrière lui et se campa de l'autre côté du lit. Il avait le visage dur. Nicolas ne l'avait pas revu depuis qu'il lui avait sauté à la gorge. « J'aurais pu porter plainte contre vous », attaqua le spécialiste d'emblée. « Une telle agression, ça aurait pu aller très loin, et ça aurait sans nul doute mis à mal votre carrière. Je suis désolé d'avoir réagi de cette façon. Je n'étais pas vraiment dans mon état normal, même si ça n'excuse rien. » En effet, la plupart des personnes que nous recevons dans nos services ne sont pas dans leur état normal. Ce n'est pas pour autant qu'ils cherchent à nous étouffer. Il s'approcha de la fenêtre. Il n'y avait aucune hostilité dans son attitude. Mais à quoi bon nous causer des tracas supplémentaires, à vous comme à moi? Ce que nous vivons est, je crois, déjà bien assez compliqué. Dehors, quelques gouttes tombaient, mais les manifestants ne lâchaient rien, tournant lentement en rond en ce morne samedi d'automne. « Regardez-les avec leurs pancartes, » fit-il en enfonçant les mains dans ses poches. « Ils mélangent tout. L'euthanasie, l'avortement, le féminisme. Ils prennent des photos pour alimenter leur compte Facebook et lancer des pétitions à tout va. Ces pauvres gens se trompent de combat, mais peu leur importe. On vit dans une société où la voix d'une poignée d'individus suffit à imposer son diktat à tous. » Il poussa un long soupir exaspéré. « Mon nom est sorti sur les réseaux hier soir. » Il n'a pas été difficile pour les petits malins de mettre la main dessus. Kremlin Bicêtre, service de Réa, et un malheureux tweet que j'ai posté la nuit où votre compagne est arrivée. 3 heures après, on me traitait de bourreau. On m'estimait indigne d'exercer la médecine. Je n'ai pas encore eu droit aux menaces de mort, mais je pense ne pas me tromper en disant qu'elles ne vont pas tarder. Il resta un temps silencieux, presque épaule contre épaule avec Nicolas. Quant à l'hôpital, il ne m'épargne pas non plus, d'autant qu'il m'avait dans le collimateur depuis pas mal de mois déjà. Dans le fond, le fait que vous vous soyez répandu dans la presse à mon sujet, que vous ayez expliqué que j'avais parlé de votre enfant comme d'un problème, va enfin leur donner l'occasion de me coller l'ordre des médecins sur le dos. Les mots sont importants, je vous l'ai déjà dit, surtout à une époque où rien ne s'efface. Un mot de travers peut ruiner votre vie. Plus de débat, plus de « mea culpa » possible. On adule ou on guillotine, en quelques jours seulement. Je ne voulais pas ça. Je ne réfléchis pas assez, c'est ma faute. De toute façon, en ce qui me concerne, ça fait longtemps que tout est parti en vrille. Vous n'avez fait que précipiter l'inéluctable. J'ai vu, en un an et demi de Covid, plus de gens mourir qu'en 20 ans de carrière. C'est cliché ce que je vais vous dire, mais je sature de tout ça. Vraiment. On a manqué de lits, de matériel, de ressources. Chaque patient que nous perdons, c'est une blessure supplémentaire. On ne s'habitue pas à voir des gens partir. Jamais. On essaie de vivre avec jusqu'au moment où la coupe est pleine. Nicolas le comprenait. Dans une moindre mesure, il était confronté aux mêmes tourments dans son métier. La violence, la mort, les insultes permanentes. Dans l'esprit des gens, la police n'était plus celle qui protégeait, qui sauvait. Elle était l'agresseur. « Vous n'avez finalement été que le dindon de la farce, » ajouta Corneille. « Un de ces pions qu'ils ont utilisés avec brio, comme à leur habitude. Vous vous trompez. Je ne suis le pion de personne, » se défendit le flic. « C'est ce que vous croyez ? Allons prendre un café. » Ensemble, ils se rendirent au bout de ce sinistre couloir, desservant les chambres de patients qui attendaient qu'une grande main froide les emporte. Le médecin commanda les boissons. Il jeta un œil alentour, s'assurant qu'aucune oreille indiscrète ne traînait. « De quelle façon ça a démarré ? » demanda-t-il. « Un mail ? Un coup de téléphone anonyme ? Comment vous êtes au courant ? Tout notre système est gangréné par des mouvements radicaux qui n'espèrent qu'une chose, se répandre dans l'espace médiatique et déstabiliser le pouvoir en place. Vous êtes policier, vous le savez mieux que quiconque. Ils ont des sentinelles partout, parfaitement intégrées, insoupçonnables, qui profitent de la moindre faille pour s'y infiltrer. » Une blouse blanche traversa le hall. Corneille la salua, la laissa s'éloigner et poursuivit. « Peu importe si c'est un médecin, un infirmier ou un membre du comité d'éthique qui vous a contacté. Ce qui est certain, c'est qu'il a tout de suite saisi les enjeux qu'allait soulever une telle situation et que les réseaux souterrains n'ont pas tardé à s'activer, mettant le feu aux poudres. Il faut dire qu'en ce moment, tous les regards sont braqués sur nous. en pleine campagne présidentielle, une telle affaire, c'est du pain béni pour ceux dont le seul but est de diviser et de détruire. Martin Corneille ôta son masque et souffla sur son café, les mains serrées autour du gobelet. Pour la première fois, Nicolas voyait son visage en entier. Il avait une petite cicatrice horizontale entre la lèvre inférieure et le menton qui lui donnait étrangement un air sympathique. Sa bouche, droite et fine, paraissait indiquer une forme de retenue, plus le genre de personnage à observer qu'à l'ouvrir en permanence. « Ce n'est pas votre compagne qui est instrumentalisée, monsieur Bélanger. C'est vous. Et ce n'est pas non plus vraiment votre combat. C'est le leur. » Nicolas reçut ces paroles comme une gifle. Tout semblait tellement clair soudain. Évident. Le mystérieux Don't Kill Baby, dont il n'avait d'ailleurs plus jamais eu de nouvelles, était tout sauf un bon samaritain. Il l'avait orienté vers Akfak, qui s'était jeté sur l'opportunité. Face à ce constat, désorienté, le flic alla s'asseoir sur une chaise, les yeux dans le vide. Aussitôt, le réanimateur le rejoignit et s'installa à ses côtés. Ils se servent de vous, mais en définitive, ils vont effectuer exactement ce que vous attendez d'eux, faire entendre leur voix pour que la grossesse aille à son terme. Ils ne céderont pas un millimètre de terrain. Nicolas acquiesça mollement, sans desserrer les lèvres. Martin Corneille continua. Si l'ordonnance qui va être délivrée donne raison à l'hôpital, c'est-à-dire s'il confirme l'arrêt des soins, votre avocat déposera un recours immédiat devant le Conseil d'État, sous un prétexte quelconque. Et si le juge vous donne raison et nous interdit de débrancher, alors ce seront les parents de Madame Speak qui demanderont un recours. Gorgée de café, porte battante, roulement de chariot. Après le Conseil d'État, il y aura si nécessaire intervention de la Cour européenne des droits de l'homme. Une décision de justice qui en appelle une autre, des experts convoqués en veux-tu en voilà, des rapports qui se contredisent, des semaines de procédure chaque fois, et le temps qui s'égrène en votre faveur. Nicolas écoutait avec attention. Corneille n'était pas né de la dernière pluie. Il connaissait son sujet et visait juste. C'était presque mot pour mot ce que lui avait expliqué Akfak quelques jours plus tôt. Les sages n'auront probablement pas rendu leur verdict que le fœtus sera viable. Qui, dans ce cas, prendrait le risque de débrancher, quand bien même le juge l'ordonnerait? Aucun réanimateur ne le ferait, alors qu'un bébé pourrait être mis au monde d'un simple coup de scalpel. Il se tourna vers Nicolas, sourire en coin. « Bien joué. Vous avez de bonnes chances d'obtenir gain de cause. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que la grossesse se passe au mieux. » Le médecin se releva. « Je vais en revanche vous donner un conseil. Laissez Akfak faire son travail, mais tenez-vous loin de tout ça désormais. Ne communiquez pas via les réseaux et les médias, ne répondez à aucune sollicitation. Ne vous montrez pas, ne leur obéissez pas au doigt et à l'œil, parce qu'ils vont vous essorer pour servir leurs propres intérêts. Je crains que vous n'y perdiez vos amis, votre travail et votre âme. » Sur ces paroles, il remit son masque et disparut dans la cage d'escalier. Nicolas, lui, demeura planté sur sa chaise, abasourdi. Martin Corneille avait mille fois raison. Il était en train de tout perdre, à commencer par ses amis qui s'inquiétaient pour lui et à qui il ne répondait plus. Il avait même été à deux doigts de les salir dans la presse, prêt à tout pour gagner en visibilité. Quel genre d'homme devenait-il? Trois quarts d'heure plus tard, son téléphone sonna. Akfak l'informa que le juge expert en droit de la santé venait de trancher dans le sens de l'hôpital et ordonnait un arrêt des traitements qui devait prendre effet dans 4 jours. Même si Nicolas s'en doutait, le verdict lui retourna les tripes et il retint un sanglot. L'avocat, sans se soucier de la violence de ce qu'il annonçait, poursuivit. Il lui résuma l'ordonnance et ajouta, d'une voix qui ne trahissait pas d'émotion particulière, qu'il disposait de 3 jours pour faire appel. Le temps étant leur allié, il allait attendre le plus tard possible pour poser un recours devant le Conseil d'État. Il en était convaincu. Ils iraient au bout et ils sortiraient vainqueurs de ce combat. Après ça, l'homme de loi enchaîna en demandant à Nicolas s'il avait pris la photo du ventre d'Audra. Les oreilles du flic bourdonnaient. Il expliqua, le cœur gros, qu'il ne le ferait pas, qu'il ne jetterait pas sa femme en pâture à la horde des vautours, et raccrocha dans la foulée.